Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero pour ce bulletin d'ONU Info. Au menu de l'actualité, le chef de l'ONU exhorte Israël et le Hamas à faire preuve de courage politique et parvenir à un cessez-le-feu. La représentante de l'ONU pour les enfants et les conflits armés souligne le rôle de la police face aux jeunes dans les gangs en Haïti. Enfin, le prix 2024 de la pionnière des Nations Unies octroyé à une Tunisienne. Le secrétaire général de l'ONU a réitéré mardi son appel à Israël pour qu'il mette fin à toute escalade à Gaza, alors que des informations indiquent que les forces israéliennes ont pris le contrôle des principaux points de passage de la frontière à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Jérôme Bernard nous en dit plus.
La ville de Rafah accueille des centaines de milliers de Palestiniens chassés d'autres endroits de Gaza en raison de l'opération militaire israélienne. Les agences humanitaires sont inquiètes que les stocks d'aide humanitaire s'épuisent rapidement. Lors d'une conférence de presse à New York, le secrétaire général de l'ONU a déclaré que la fermeture des points de passage de Rafah et de Kerem Shalom est particulièrement préjudiciable à une situation humanitaire déjà désastreuse et qu'ils doivent être ouverts immédiatement. Antonio Guterres a appelé le gouvernement israélien à mettre un terme à toute escalade et à s'engager de manière constructive dans les pourparlers diplomatiques en cours. Le chef de l'ONU a souligné la nécessité d'un accord entre le gouvernement israélien et les dirigeants du Hamas pour mettre fin aux souffrances insupportables des Palestiniens de Gaza ainsi qu'à celles des otages israéliens et de leurs familles. Selon lui, il serait tragique que des semaines d'activités diplomatiques intenses en faveur de la paix à Gaza n'aboutissent à aucun cessez-le-feu, pas de libération des otages et à une offensive dévastatrice à Gaza. Il a une nouvelle fois appelé les deux parties à faire preuve de courage politique et à ne ménager aucun effort pour parvenir à un accord.
En octobre dernier, le Conseil de sécurité a approuvé l'envoi d'une mission multinationale de soutien à la police haïtienne pour les appuyer à lutter contre les gangs qui ravagent le pays. Or, ces gangs sont en grande partie composés d'enfants de moins de 18 ans. Comment la police peut-elle s'affronter à des mineurs au sein de ces gangs? Nous avons posé la question à Virginia Gamba, la représentante de l'ONU pour les enfants et les conflits armés.
C'est impossible en situation où il y a des tireurs de les deux côtés, éviter tuer ou blesser un enfant qui se bat contre une personne. Mais l'importance ici, c'est que dans l'engagement de la police, ce n'est pas toujours une chose de se battre. C'est toujours une chose de faire des règles entre les gangs pour permettre assistance humanitaire et pour mieux défendre la communauté. Dans ces cas, c'est possible de donner le langage à la police qui va intervenir pour convaincre particulièrement de protéger mieux les jeunes filles des violences sexuelles. Aussi, il y a une opportunité quand on parle avec les gangs de dire, enfin, si vos groupes incluent des personnes de moins de 18 ans, ils ne doivent pas être dans un rôle de combat et c'est important qu'il ait une éducation. Peut-être vous pouvez laisser cette personne avoir une éducation. C'est advocacy. Et la meilleure personne pour faire cette advocacy sont la police qui est là pour ce rôle. C'est possible.
L'édition 2024 du prix de la pionnière des Nations Unies pour les femmes spécialistes des questions judiciaires et pénitentiaires a été octroyée ce mardi à une Tunisienne. Souvent la seule femme au sein de son équipe majeure, Ahlem Dozi, travaille au sein de la mission de paix de l'ONU en République démocratique du Congo depuis 3 ans. Elle a notamment aidé à enquêter sur les attaques menées contre la MONUSCO, d'abord lors de manifestations, puis contre des hélicoptères.
Dans les deux cas, on a des 7 cadavres. J'ai assisté pour l'extraction des balles avec le groupe des experts, les médecins légistes et la police technique scientifique pour faire bien sûr l'extraction et pour l'analyse des évidences, des balles ou bien les résidus de tir. Et aussi, j'ai fait la deuxième phase, c'était dans le laboratoire balistique à Kinshasa, les travaux d'expertise balistique avec la police technique scientifique et j'étais capable de déterminer le type de munitions et bien sûr de donner les hypothèses concernant les armes utilisées dans ces incidents. La même chose pour l'attaque contre les deux hélicoptères en février 2023 et février 2024. Aussi, j'ai fait l'intervention avec l'auditeur militaire supérieur, les autorités congolaises militaires. J'étais la seule femme parmi eux. On a fait la descente afin de faire les investigations pour identifier les orifices d'entrée et de sortie, pour calculer aussi l'angle d'incidence et pour faire la collecte et préserver ces évidences-là et continuer au niveau du laboratoire balistique à Kinshasa pour déterminer le calibre de munitions utilisées et bien sûr de dire quel type d'arme a été utilisée.
Voilà, fin de ce bulletin de Nu Info. Merci de votre fidélité. À bientôt.